intervenir dans, avec Marthe, comment Marthe a écrit ce qui s'est passé lorsque dans le dernier souffle, à 3h de l'après-midi, Jésus est mort. Quand Jésus est mort, il a laissé son souffle de vie pour que sa croix dure, sa souffrance plus qu'infinie, c'est une souffrance totale, c'est une souffrance divine, enfin c'est une souffrance qui a, que le pouvoir, que la toute-puissance de Dieu a voulu rendre permanent. Donc cette souffrance, elle est venue se réfugier dans le, au moment du dernier souffle, dans la même souffrance à égalité qui est la sienne dans le corps et l'âme de sa mère. Et donc il y a des descriptions extérieures qui sont difficiles à difficile d'exprimer, mais on en éprouve quelque chose quand même, qui veulent dire quelque chose sur la souffrance intérieure, qui est la sienne dans le cœur de Marie vivante, alors qu'il est mort. Et ça dure une demi-heure. Et cette demi-heure, jusqu'au coup de lance, va faire qu'elle engendre dans l'âme de Jésus de quoi être glorifié. Des myriades, des myriades, des myriades, des myriades de fois dans son âme. Donc en même temps, il y a la mort, puis l'ouverture cadavérique d'une mort réelle. Et en même temps, une vie de gloire dans l'âme. En même temps, il y a la croix. Le parfum de sa mort qui tombe de la croix comme un fruit glorieux. Et en même temps, il y a toute la gloire du monde de la résurrection et de tout ce qui engendre les gloires du ciel, de la vision béatifique en Dieu, qui s'empare de l'âme de Jésus. En même temps, il y a la croix, l'état pur, la mort, je veux dire. Et la blessure du cœur qui est vivante, bien sûr, on est d'accord. Et la mise au tombeau. Et en même temps, il y a la dimension intérieure et glorieuse de la croix glorieuse. Il y a les deux. L'âme est complètement immergée. Dans une jubilation humaine de l'âme de Jésus. C'est arraché de son corps et que Marie et le Père ont voulu que jusqu'à l'arrivée de l'heure terminale du sabbat, qu'il y ait une intériorisation glorieuse de la séparation de l'âme humaine et de son corps crucifié et gisant comme un fruit. Parce que pour expliquer que le fruit du corps qui descend de la croix dans les bras de Marie, ce fruit est un fruit glorieux. Il y a en même temps la gloire dans l'âme humaine de Jésus qui signifie que le corps porte la gloire éternelle de Dieu dans son corps cadavérique. Alors, C'est vendredi aujourd'hui. C'est le septième jour. On va lire un passage, mais il faut deviner. C'est pas deviner qu'il faut, mais... Il faut comprendre ces deux, ces trois. Le côté extérieur qui... Il y a le côté intérieur, c'est la gloire, la jubilation, la joie infinie d'amour qui est dans l'âme de Jésus, séparée en la croix glorieuse. Et il y a la gloire éternelle du Père et du Saint-Esprit, de la très sainte Trinité, qui est dans le corps cadavérique de Jésus. Et c'est l'unité des trois qui fait le cinquième mystère douloureux. Et qui va être une telle force qui pourra conjoindre la dormition de Marie à la dormition de Jésus. Et donc rendre possible, pas seulement possible, mais donner la vie à Dieu dans tout ce qu'il a créé. Alors voilà, on va lire, puis c'est rare d'avoir un... C'est rare quand même d'avoir un témoin comme Marthe. Pour le père Garrigou Lagrange, qui est quand même un des plus grands prêtres de son vivant, là, Marthe était celle qui avait partagé les souffrances rédemptrices du Christ. Le plus intensément, le plus surnaturellement, le plus divinement, et de la manière la plus incarnée, la plus proche de ce que Jésus et Marie ont porté en Marthe. Et c'était toucher, par exemple, l'intensité des souffrances à tout à fait impossible à décrire. Le Jésus, que Jésus lui portait, en raison de la puissance de Dieu qui lui permet toujours d'aller toujours plus loin dans une souffrance indicible. C'est pas seulement une souffrance, justement. Marie a vécu, comme on l'a lu la dernière fois, c'était en septembre, Marie a vécu le même degré d'intensité quelque part. De ces tourments de Jésus, on peut dire à égalité avec lui. Et Marthe était très proche de cette égalité. Pour le père Garrigou, Marthe était... Jamais personne n'avait donné une grâce corédemptrice incarnée aussi profonde, enfin aussi proche du mystère de compassion de Marie qui vivait la même souffrance que Jésus en même temps que lui. Et ceci, Marthe l'a vécu de plus en plus jusqu'à sa dormition à elle. Parce que chaque vendredi, c'était... Plus on allait s'approcher de la fin, plus l'intensification, la multiplication des souffrances qui ne pouvaient être supportées que par une puissance miraculeuse de Dieu en elle. Sinon, c'est évidemment, les souffrances que Marthe a vécues, on les aurait partagées sur une centaine de milliers de chrétiens prêts à souffrir en communion avec le Christ, ça faisait 100 000 morts. Hein. Immédiatement, hein. Ce n'est pas à cause d'une compassion terrestre et humaine, même la plus sublime et même la plus élevée surnaturellement, également que Marthe a souffert. C'est Jésus qui a voulu cela en elle. Hein? Bon, bref, ça c'est l'introduction et je ne devrais pas faire d'introduction. Justement, il faut faire la lecture, c'est mieux. Relevant alors un peu la tête, un cri d'une puissance très forte se faisant entendre dans un acte d'amour sans limite et sans fin, qui se fit entendre dans la confiance et l'abandon jusque dans toutes les profondeurs, avant, pendant et après, de l'amour du Père. Il se fit entendre par lui. Et il dit, mon Père, entre tes mains, je remets mon esprit, mon âme. Et ayant réussi à prononcer ces paroles, ce cri s'amplifie pour remplir d'étonnement tous les témoins célestes et terrestres de son supplice. Un cri qui pénétra toute la terre et qui pénétra tout le fond du ciel, il suffit d'entendre jusque-là. Et même qui descendit jusque dans l'enfer. Produisant dans chacun des démons et tous ensemble une sidération qui fit frissonner tous ceux qui étaient enfermés. Et captifs, même éternellement, de leur surdité. Ayant poussé un grand cri, donc à cet instant, ce cri était un cri total. Et Jésus inclina la tête, et le souffle qu'il leur rendit à l'intérieur de ce cri immense, c'était l'Esprit. Et son Esprit, c'était l'Esprit Saint. Il était alors un peu plus de 3 heures. Ô cri, voix divine, voix qui parlait encore en multitude, que vous êtes fait entendre de manière audible dans toutes les multitudes de la bouche des âmes intimes, confidentes de vos secrets d'amour, de vos desseins éternels dans l'Église et le monde. Ô cri d'amour, Amen, mon Dieu et Seigneur Jésus. Je vous bénis. Ah, ce cri qui a perduré dans tout le temps, jusque dans la profondeur de l'éternité. Je l'entends encore et il produit en moi tout ce qui est possible d'en entendre pour vous aimer, vous louer, vous glorifier. En tout ce que vous faites dans ce cri, dans tout ce que vous enseignez et commandez à tous, et que vous donnez à votre Sainte Église et à chacun de ses membres, jusqu'à la fin. Ce cri, Jésus a accompli la promesse qu'il avait faite au Père et il a tout donné au Père et à nous. Et par-delà, ce qu'il montre, ce qu'il a envie encore et encore, il laisse pressentir des perspectives d'une vastitude plus grande et plus magnifique encore. et il soulève en quelque sorte un tout petit coin du voile qui nous cache ce qu'il nous fait pressentir et qui nous étreindra en entier un jour. Avec sa beauté pure, la splendeur de sa lumière et son mystère de gloire infinie. Au dernier cri d'amour de son divin fils, le glaive par excellence de son supplice divin transperça le cœur si maternellement aimant de Marie. Comment voulez-vous que je puisse dépeindre par quels mots exprimer ce qu'elle y fit en elle, telle qu'était Marie, telle qu'elle était, au principe du supplice qu'il en vit, elle qui était au principe royal du supplice qu'il en vivait, et en présence de son fils qui était là et qui n'est plus. Tout à coup, ses yeux se couvrirent d'un nuage d'ombre. Il n'y avait plus aucun souffle dans le cadavre. Elle devint pâle comme lui. Son corps, ses oreilles cessèrent d'entendre. Ses pieds chancelèrent. Elle s'évanouit. Mais Jean, elle lui avait été confiée. Et elle lui était confiée. Et ils étaient bien là avec elle. Et voyant cela, c'est extraordinaire ça, c'est en mission. Et voyant cela, vite, ils la recueillirent pour qu'elle puisse se reposer et se ressaisir d'ailleurs tout de suite. Et se relevant, pour revenir se placer tout près de la croix. Pour se rapprocher de la mort de Jésus, mais cette fois d'une mort qu'il avait entièrement détruite et vaincue. Pour s'approcher de ce que signifiait cette mort où l'amour en avait détruit tout, les prolongements et les échos. Au dernier cri de Jésus, la matière primordiale de la création s'ébranla et fut comme transportée en un autre, en un lieu qui était celui de l'éternité de Dieu. Et c'est pourquoi la matière primordiale telle qu'elle était trembla dans tout l'univers. Sur sa base, dans la terre, ce tremblement de la terre fit un bruit énorme. Plusieurs rochers se fendirent, les tombeaux eux-mêmes s'ouvrirent, beaucoup parmi les juifs apparurent, le rocher sur lequel la croix s'était enfoncée se fendit aussi avec un bruit sinistre, entendu très loin. Et oui, dans le cœur de Marie, crucifié cette fois-ci seul, sans lui, ou à ses pieds, mais. Et il se fit une large brèche précipice étroit, mais entre la croix du Rédempteur et celle du mauvais larron. À cette scène sans précédent, Dieu se rendit témoignage par un avertissement terrible qui ébranla jusque dans ses plus intimes profondeurs toute la nature qui faisait le deuil de celui qui donnait tout ce qu'il avait à ceux qu'il avait épousés en livrant tout ce qu'il avait. Tout était maintenant accompli. Et ce dernier cri de Jésus, mourant, fit trembler tous ceux qui l'entendirent, et comme il se fit entendre aussi au fond de ceux qui étaient dans la tente et dans les lieux de la mort, la mort étant supprimée, ils l'entendirent vraiment. Et il pénétra jusqu'aux extrêmes profondeurs de la terre qui reconnut la voix de son sauveur en tremblant, mais aussi de ceux qui l'attendaient dans un frémissement de bonheur en voyant l'instant arriver de la destruction de la mort en eux-mêmes, dans l'instant même où ils entendaient l'écho de ce cri dans le monde angélique. Criant que l'instant était arrivé. Où l'âme glorifiée du Christ allait les pénétrer de la disparition totale de toutes les formes de mort en eux pour remplir la place vacante dont part la lumière de gloire de la vision du ciel béatifique du Père et du Fils. Le centurion celui qui était le chef sur le Golgotha parmi les soldats de Pilate. En entendant ce cri, comprit qu'il n'était pas là devant le cri d'un homme. Une grâce immense descendit sur lui. Toute la terre vivante qui était en lui, en sa propre chair, fut elle aussi secouée. Elle tressaillit dans toute sa personne et se répercuta dans son âme en ébranlant complètement son cœur. Et son cœur se brisa et l'orgueil qui était dedans fut anéanti. Il s'ouvrit largement à la grâce qui en émanait, comme le rocher du calvaire s'ouvrait sous les pieds de la croix. Il n'avait pas besoin d'autre évidence. Il descendit précipitamment de son cheval, conduit par une force invisible. Il jeta son épée. Il se frappa la poitrine avec force. Et il cria. Dans son humanité entièrement, mais totalement nouvelle et renouvelée, il cria « Béni soit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant ». Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. En entendant cela, les soldats qui étaient avec lui crièrent avec lui en écho, oui, cet homme est en vérité le Fils de Dieu, Dieu le Fils. La défaite apparente et totale se changeait en victoire et en gloire. c'est ce qui était physiquement le plus proche d'elle. La matière rassemblée dans les œuvres des hommes tressaillit elle aussi dans toutes ses constructions, et c'est ainsi que dans l'intérieur du temple, les hauts murs de séparation s'effondrèrent dans un effondrement fracassant, jetant tout le monde dans la consternation. Il en fut de même d'ailleurs dans tous les pays du monde. Et lorsque son âme fut recueillie par son père en elle, que son corps habité par la séparation de sa mort humaine et lui apparut comme un grand vase entièrement brisé par la douleur et la mort en elle, comme un immense espace vacant. Ses plaies sacrées où son sang avait coulé plus abondamment se montraient maintenant comme d'immenses abîmes de taches sombres. Le visage mort et la face dans sa douceur s'étira, ses joues s'affaissaient. Son nez s'effila, ses yeux remplis de sang restèrent à moitié ouverts, et ses lèvres étaient devenues livides. Elles s'étaient entrouvertes un peu et laissaient apercevoir l'intérieur de sa bouche, abreuvée d'un sang qui n'y était plus, et ses pauvres mains qui étaient si douloureusement contractées. C'était détendu, inerte, ainsi que ses bras. Son dos s'était raidi, comme le fer. Et tout le poids de son corps était sur ses pieds, cloué, à tel point que ses pieds tournaient autour de ce clou qui était le plus proche de celui de la mer. Tout privé de toute vie, il attendit plus encore dans cet affaissement, en se tournant ainsi. Le corps divin de Jésus restait magnifiquement splendide. Malgré les affreux ravages de la souffrance de la mort, son corps restait en lui. À l'intérieur même de cette mort achevée, quelque chose de si ineffablement grand et de tellement divin qu'il inspirait la confiance et l'amour éternel en elle et en elle dans tous les cœurs humains possibles, au point qu'on était fixé, transfixé, qu'on ne pouvait pas en détacher les yeux de l'âme et du corps. C'est avec Marie, ma mère bien-aimée, que je contemplais et vis intérieurement muette de douleur ce corps sacré de Jésus, conçu dans la plus parfaite pureté de l'amour par la volonté du Père et par l'opération toute divine du Saint-Esprit dans son sein immaculé pour porter une immolation aussi puissante, éternelle et impossible à dire à Jésus, le cœur de son cœur maternel, la chair de sa chair virginale, le sang de son sang de mère, devenait le corps et le sang de du sang de sa divinité poussée en elle. Ce corps sacré et divin formé en elle par la vertu du Saint-Esprit était l'acte du Saint-Esprit, seul capable en elle de recevoir cette mort-là à égalité avec lui, couverte qu'elle était de son ombre céleste, privée à cette heure de toute humaine beauté, toute forme, de toute vie, séparée de sa sainte âme, gloriosissime. À douleur, mais en place à la gloire éternelle de Dieu. Là, ce Dieu de toute sainteté, de toute miséricorde, de toute sagesse, de toute science, ce Dieu lui-même, Dieu lui, en lui-même, là, corporellement présent, ce Dieu de toute charité divine et éternelle, rendu infini et sans limite dans l'absolu de cet amour donné en tout son don, et en toute vie qui était la sienne, était dans un corps défiguré, meurtri, et encore rejeté de tous ceux qui étaient venus racheter du péché pour pouvoir les torturer encore s'il était possible, et aussi l'enfer. Et le monde de la mort à qui il avait rendu la vie était là, dépouillé de trésors qu'il croyait éternels. Non, la mort avait disparu, gardant encore les marques vivantes de sa divinité. C'est pour ça qu'il fallait quand même du temps. Jusqu'à l'arrivée du sabbat dans le suaire. Quand les plus fortes secousses de tremblements de terre commencèrent à se ralentir, quelques-uns s'approchèrent de la fente. Jeter ses profondeurs jusqu'au centre de la terre. Ils ont l'audace de la curiosité en y jetant des pierres pour essayer d'en mesurer le fond. Ils ne pouvaient évidemment pas en atteindre la profondeur que celle la mer et le Fils en elle pouvaient considéré par une vision divine, surnaturelle, seule capable d'en pénétrer les profondeurs. À Jérusalem, de nombreuses personnes se sentirent intérieurement ébranlées. S'ouvraient à une nouvelle réponse que celle de leur cri, sorti de leur bouche et de leur cœur, crucifiez-le. sur les montagnes, la colline voisine, et on pouvait voir même sur les monts escarpés, dans la vallée du Géon, les disciples de Jésus qui regardaient de si loin, mais voyaient du côté du calvaire. Attirés par la douleur de Marie infinie, les atteignant là où ils étaient. Pourtant, il ne faudrait pas se représenter sa souffrance, parce que sa douleur était sans limite. Il ne faudrait pas se représenter sa souffrance comme un océan d'amertume, hein, qui n'éclaire aucun rayon d'eau. C'est tout le contraire. Elle était si parfaitement heureuse, libre, vivante dans son immense douleur, de faire jusqu'au bout la volonté du Père jusqu'à la fin du monde, et d'y contribuer avec lui largement par son amour et son offrande, pour que le plan rédempteur se surmultiplie avec elle et en lui, et éternellement en Dieu, pour enfanter avec Jésus un homme nouveau, totalement renouvelé, à la vie divine elle-même. Elle avait entendu. Et elle avait cru que s'accomplirait cette parole. Dieu le ressuscitera troisième jour. Et cette espérance l'exaltait. Dans l'exaltation du divin crucifié, dans l'universalité de ces espaces d'amour en communion avec lui, ce qui n'empêchait pas sa douleur d'être sans limite. Avec Marie, notre mère bien-aimée, cherchons dans cette tourment, hein, partager avec lui et elle, notre bonheur et notre joie. C'est le seul lieu où nous pouvons le trouver. Où nous pouvons trouver cette allégresse, car là Dieu est à nous. Là Dieu est en nous. Pourquoi chercher Dieu en dehors de cette consolation et de la paix des véritables enfants de Dieu? Ah, dans cette demi-heure et les heures qui suivirent, dans la myrrhe, l'aloès et les parfums, que de mystères d'amour dans ce gisant sublime et divin se joue au fond intime de notre âme pour s'y amplifier d'une manière que Dieu seul connaît, mais de manière bien réelle. Malheur à nous qui avons passé tant d'années à ne pas oser même y penser et y vivre. Des grâces de contemplation et de joie divine nous sont offertes à chaque instant. Dans cette transformation de la mort en vie, et nous avons passé si souvent à côté sans les voir, et sans vouloir nous y plonger, mais en entier, résolument. Oh mon divin Jésus, tout est consommé, mais tout n'est pas fini. Car n'est-ce pas, lorsque Jésus meurt en croix, c'est là que tout commence au contraire. Oh, venez, venez toutes les créatures de la terre. C'est bon, j'ai appris à Marie comme ça. C'était la prière de Marthe en tout cas. Venez. venez, toutes les créatures de la terre, et vous, les créatures angéliques aussi, venez, je vous convie tout auprès de votre roi et sauveur Jésus sanglant, méprisé, délaissé, honni de tous cloué, et descendu de la croix comme, et semblable à un ver de terre écrasé, mais totalement broyé, et disparu, hein, dans sa visibilité sur nous, pour vous sous une croix, hein, semblable à un ver de terre écrasé sous les pieds de tous. Venez toutes dans son cœur ouvert pour vous et dans ses bras étendus pour vous recevoir. Venez tous aux pécheurs, mes frères. Il s'est fait votre prix. Dans le prix de sa vie, venez aux infidèles, aux musulmans, aux schismatiques, aux éloignés de la grâce. Venez en sa crucifixion et laissez s'y allumer sa lumière éternelle et votre paix inaltérable et immortelle. Revenez aux divines complaisances du Père Céleste et répandez sur toutes ses plaies l'ineffable chaleur du baiser hypostatique qui n'a pu cesser un instant entre vous. C'est admirable. Ô esprit d'amour, vous qui avez porté le dernier coup mortel à la divine victime de notre salut, revenez, rendez-lui la vie qu'il est venu apporter au monde. Et c'est l'Esprit Saint qui a produit la mort. C'est pas les coups mortels. C'est l'Esprit Saint qui a produit la mort. Avec Marie, elle était médiatrice de sa mort. Avec le Père, l'Esprit Saint. C'est ça la croix glorieuse. C'est pour l'unique gloire du Père. Du coup, investit son âme arrachée à la mort, arrachée au corps. Revenez au Père Céleste, au grand Dieu d'amour, être de notre être, notre bien suprême et infini, notre tout. Venez, ne laissez pas dans cet abandon où l'on réduit les ténèbres qui sont répandues sur la terre par notre séparation. Ne laissez pas dans cet abandon. Ne laissez pas dans cet abandon continuellement et jusqu'à la fin du monde votre Fils éternel, le Fils bien-aimé de vos éternelles complaisances. Ressuscitez-le un jour et glorifiez-le en attendant sa résurrection. Venez, ô mon Dieu, conclure avec mon Jésus en croix et en son âme la cause de votre gloire infinie et de notre salut à chacun. C'est une prière qui a fait qu'elle a raté l'heure de la résurrection. Ce que dit Père Chardon dans le livre La Croix de Jésus. Il ressuscitera le troisième jour et il est ressuscité au bout de 36 heures. Et elle a raté l'heure de la résurrection. C'était pourtant vrai que c'était le troisième jour, puisqu'il a fait nuit pendant 3 heures. Mais une nuit totale, puisqu'on voyait les étoiles et tout ça. Venez, ô mon Dieu, entendez son appel d'amour, accueillez sa prière, embrassez celui qui est dans son corps entier vivant et la divinité qui est en lui, en votre divine étreinte, vous qui procède de vous. Il vous est égal en tout. Par cette œuvre admirable, et puisque son divin holocauste irradie votre gloire éternelle, ô mon Dieu, intimité éternelle du Père, de votre Fils, venant irradier sa gloire éternelle en ce temps, en même temps que la vôtre, vous la faites triompher de toute la terre. Et de toute la création. Oh, glorifiez le Fils qui est Dieu vivant avec vous, pour que votre Fils vous glorifie sur la terre comme dans le ciel. Voici que je suis glorifié et que le Fils te glorifie. Ô ciel, ô terre, ô univers, ô divinité, je vous appelle, je vous conjure tous de rendre avec moi à mon Jésus bien-aimé tout ce que je lui dois. Moi, le Père, et veux lui donner tous les jours sans cesse dans le don qu'il m'a fait pour mon unique gloire. Nous avions lu ce qui s'est passé à ce moment-là, à Jérusalem et dans la cité de la terre. Les morts ressuscitent de tous les côtés. Assister à tout ça, puisqu'elle en était la médiatrice. Il y a 15 pages complètement. Que nous avons déjà lu. C'était en septembre. Dernière plaie, qui celle-là est mortelle, pour qu'on puisse pas dire qu'il est mort d'une plaie mortelle. Le divin sacrifice est achevé, la grande rédemption d'amour est totalement accomplie, achevée. Il n'en reste plus rien à faire, et pourtant la royale victime de l'humanité a cessé de souffrir. Certes, sa vie humaine a pris fin, et la mort a fait son œuvre en elle. Tous les bourreaux, les archers, leur demeure et sont enfuis des Juifs. On fuit le calvaire qui les condamnait. Un vrai silence de mort régnait maintenant autour de Marie et de Jésus. Et ceux qui avec elle et avec lui priaient ou pleuraient leur Dieu, voyant que c'est Dieu qui pénétrait en cette heure-là, et eux qui pénétraient en Dieu, en lui. À un moment de divin silence d'amour, je vis les archers qui arrivaient au nombre de 6 avec des échelles, des pics, des cordes, pour exécuter par l'ordre du gouverneur de Ponce Pilate et enlever les corps des crucifiés. À la vue du public avant que la Pâque et le sabbat ne soient commencés, à leur approche, Marie connue une nouvelle à la pensée que tous ces traîtres venaient à nouveau faire subir à son fils le même sort qu'aux deux larrons. Un sanglot profond déchira sa poitrine. Ce sanglot arrêta invisiblement les bourreaux qui allèrent tout droit aux croix des deux larrons pour leur briser les jambes. Pour les achever, il brisait les os à Damas comme à Gusmas. Avec des masses de fer pour les achever. Dieu lui avait demandé de laisser faire jusqu'au bout et encore, et ce n'était donc pas fini. Dans son doux cœur meurtri, elle voulait bien mourir encore plusieurs fois. Mais il était déjà mort. Alors elle a obtenu invisiblement que d'un des bourreaux applique une échelle contre la croix du Seigneur lui-même pour prendre son corps et avec une très grande force le secouer et constater qu'il était vraiment complètement mort, qu'il était froid depuis longtemps. Et à la demande de Saint Jean, qui prononça cette requête, à la demande intérieure de Marie qu'il entendit d'elle en lui, de le laisser encore un moment pour qu'il ne lui brise pas les jambes. Et pourtant, ils ne s'attardèrent pas davantage près de Jésus. Et ils s'occupèrent plutôt de larrons, qui détachèrent leurs cordes et les laissaient tomber lamentablement sur le sol. Pour terminer de se briser, puis ils amenèrent ailleurs, plus loin, dans le renfoncement d'un rocher qui se trouvait entre le roc du calvaire et les murs de la ville. Et ils s'occupèrent que de les ensevelir immédiatement. Ils attendirent donc encore. Marie craignait qu'il ne revienne au corps de son fils bien-aimé. Et elle priait du fond de son cœur pour obtenir de Dieu que si infamant outrage, corps sacré de Jésus soit épargné. À leur cœur uni dans l'unique mort glorieuse qui était la leur. Et comme il était mort, et que le corps du divin agneau de Dieu ne pouvait ni ne devait être brisé, dans une suprême et dernière cruauté, puisqu'elle était vivante, en une seule et épouvantable mort vivante, d'une cruauté qui continuait à vivre à travers elle, en lui, et en lui à travers elle. Cette dernière cruauté fut épargnée à sa pauvre mère en larmes. C'est là que le deuxième officier, dont le nom était Longin, reçut tout à coup une effusion intérieure d'amour et de force de l'Esprit de Dieu prières et les larmes de Marie, les supplications pleines d'amour de Saint Jean et le voile des phares, attirant cette grâce en lui, l'ardeur subite qu'excita en lui cette grâce divine à l'état pur. Lui firent accomplir ce qu'avait dit l'Écriture. Il saisit vivement sa lance et dirigea courageusement sa monture vers la petite élévation sur laquelle avait été plantée la croix. De notre salut, il prit sa lance à deux mains, il l'enfonça avec une force réfléchie, qui est une force venue de Dieu dans le côté gauche du Christ. Et lui transperça le cœur sans songer qu'en transperçant le cœur, maintenant insensible de Jésus, il avait en même temps transpercé le cœur vivant et tout aimant de Marie, physiquement. Et bien réellement, debout au pied de la croix, elle porta cette blessure mortelle jusqu'à sa dormition. Et ayant ouvert le cœur sacré du Seigneur notre Dieu et notre grand roi d'amour, une quantité de sang mêlé d'eau jaillit aussitôt de la blessure comme un fleuve d'amour, de grâce et de vie. Et le don que Dieu lui fit, celui, fut celui d'inonder le visage de l'engin et ses bras. Et oui, parce que dans le cœur, il reste le fond du cœur. Tout le sang était parti, il n'y avait plus une goutte de sang dans les veines, les artères, plus une seule goutte. Mais dans le fond du cœur, il y avait comme un vase en transperçant. Le coup fut en effet si fort que la Sainte Vierge chancela sur ses jambes bas. En ouvrant dans son cœur, le cœur de notre Seigneur, vivant en elle la demeure aimée de nos âmes, il venait également de traverser et de nous ouvrir éternellement avec celui de Jésus, son cœur maternel, pour que notre cœur soit transpercé lui aussi, au jour de la gloire de l'amour, dans le coup de lance, porté au cœur de Jésus. Jean vit de ses yeux extérieurs, mais aussi de ses yeux divinement éclairés par la lumière de Dieu, la réalisation de la volonté écrite de Dieu. Car l'incarnation de Dieu dans la chair était écrite dans le cœur de la mère qui lui était confiée. En transperçant le cœur sacré du Seigneur du fer de sa lance, l'engin réalisa, sans y penser davantage, la prophétie du prophète Zacharie. Montrant que toutes les générations et tous les hommes sans exception seront occupés à contempler celui qu'ils ont criminellement crucifié dans un cœur ouvert par la lance. Et depuis, il est vrai, ce cœur ne s'est plus jamais refermé dans les cœurs crucifiés vivants en lui. Et il ne se refermera jamais plus à personne. Martel, c'est bien ça. Telle est donc maintenant la divine mission du Christ dans l'humanité rachetée. Hein? Marie est toujours et de plus en plus notre mère. Hein? Celle qui nous donne Jésus et laisse vivre Jésus crucifié et mort en nous, tout en nous empêchant d'en mourir. Ô mon bien-aimé, vous êtes le Fils du Dieu Très-Haut. Vous êtes avec le Père en des relations ineffables d'amour et de confiance, mais vous me l'avez promis à moi. Parce que j'ai dit oui, pour venir à vous, être avec vous, vivre en vous, et aussi être enfant de Dieu avec vous et par vous, être identifié avec vous. Parce que je ne verse plus qu'un seul Jésus dans la vie et l'union d'amour transpercée. Sans en mourir pour autant, puisque la mort y est supprimée. Ils regarderont vers celui qu'ils auront transpercé. Voici ce que Jean entendit reproduire en lui comme révélation déjà donnée en le prophète et dans l'écriture pour être donnée une deuxième fois jusqu'à la fin du monde. À la vue du sang divin de Jésus qui atteignit avec quelques gouttes seulement, mais les dos jusque dans la grâce qui permit au creux du rocher sur lequel avait été enfoncé la croix d'en recevoir la dernière goutte pour en pénétrer l'abîme. La très sainte Vierge Marie et Saint Jean et toutes les personnes qui étaient là recueillirent ce qui était possible d'en recueillir avec précaution ce sang précieux et dernier, le sang de celui qui était mort depuis déjà longtemps. Ils le firent avec des linges blancs. Ils épongèrent aussi son corps sacré et divin. Et Marie remit et allongea un petit linge imprégné du sang de son sauveur, qu'il porta fidèlement sur lui jusqu'à sa mort. Il était un homme entièrement renouvelé. Et il s'humiliait devant tous. Et il était un peu plus de 4 heures. Quand toutes ces choses se passèrent, on dit, parfois on dit une demi-heure, mais en fait, oui, ça fait disons, une bonne heure, plus qu'une heure, après la mort. Au moment où l'engin porta le coup de lance au cœur sacré de Jésus, moi, sa souffrance reproduite à égalité en moi-même, c'est à ce moment que je reçus, à ce moment-là, comme venant du ciel et porté par messager incarné, le choc terrible au cœur, si violent que j'en fus toute secouée, j'en suis secouée à chaque fois, qui se retourne en moi pour se reproduire de manière toujours plus profonde. À chaque fois, je ressens dans cet instant même, bien distinctement, et d'une manière autre et plus profonde, sans comparaison, que je ne l'avais éprouvé la semaine précédente jusqu'à ce jour, la double blessure du cœur sacré de Jésus et du cœur de Marie lui-même, transpercé du glaive, les deux ensemble s'amplifiant du fait même de cette douleur si aiguë qu'elle m'étreint à chaque respiration. Et c'est réellement que mon âme se sépare et sont arrachées de mon corps quand je le revis, comme si j'allais mourir et je m'y endors effectivement. et j'entre effectivement là dans mon éternité, sans pourtant cesser un instant de souffrir. Mon âme y étant emportée dans une vision de toutes les profondeurs de tout ce qui existe. Et mes oreilles n'entendent que des choses qui navrent certainement le cœur, mais me donnent la lumière, qui me font percevoir et dire en toute vérité, mes yeux ont répandu des torrents de larmes. Je suis séché de douleur et le cœur m'a manqué en voyant les hommes abandonner leur roi. Ma soif m'a fait m'arracher moi-même pour pénétrer en Dieu. Les sentiments que je ressens et que j'éprouve là, à chaque fois, s'y prolongeant, jusqu'au transpercement plus profond encore, à ce spectacle inouï de l'agonie, de la passion et de la mort de Jésus, loin de s'atténuer, augmente à chaque fois de manière considérable. Il est de ceux que rien n'épuise, qui ne peut en rien s'amoindrir, et qui éclate avec une violence inconcevable, impossible et inénarrable à décrire, quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse. J'ai soif. Oh mon Dieu, c'est là où ma soif tout entière s'y trouve établie. Et oui, elle ne pouvait pas même boire, hein, puisque on est obligé de lui mettre un petit peu de vapeur sur les lèvres. Mais si ça faisait une petite rosée, ça ne pourrait pas rentrer. Une soif mortelle, continuelle en elle, qui a duré 40 ans. Cette soif n'était pas rien. Hein. La soif de voir embraser mon cœur pour que mon cœur reçoive et vous donne à lui seul, comme vous le demandez, l'amour des millions et des myriades de cœurs qui ne vous aiment pas, des millions et des myriades d'hommes qui vous d'âme qui vous ignore, vous méprise. C'est la soif hein, de l'immense faveur que j'attends de votre amour. Oh mon Dieu, pour vous donner tout ce que vous êtes en droit d'attendre et d'exiger de moi, en raison de tous et de chacun de tous. Oh mon Dieu, je m'offre et je me donne à vous pour empêcher de tomber en enfer aucune de ces âmes, si nombreuses qui s'y précipitent. Et pour leur ouvrir le ciel, afin qu'elles n'augmentent pas le nombre de celles qui se sont damnées jusqu'à aujourd'hui, mais le nombre de celles qui éternellement vous aimeront et vous glorifieront dans le ciel. Je m'offre à vous, ô mon Dieu, pour réparer et obtenir de briser la mort éternelle en toutes ces âmes à lesquelles je vis. Des myriades de fois plus intensément à chaque semaine. Depuis, pour tous les péchés du monde, depuis le plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux, parce que tous blessent votre cœur infiniment aimant et miséricordieux. Et je veux vous dédommager par la croix de Jésus vivant en moi. Tous ceux que tous ceux qui se refusent à votre amour, devrais-je endurer tout le tourment de l'enfer lui-même pour vous obtenir cette grâce de m'offrir vraiment à vous avec ce trésor de savoir que en le vous laissant vivre cela en moi et moi en vous, j'obtiens de vous faire aimer de toute la terre d'une manière aussi pure et si parfaite que vous l'êtes vous-même dans le ciel, dans votre gloire. C'est la seule manière, et je le sais, par laquelle je puisse m'unir à toutes les âmes qui vous aiment, pour être avec elles victime éternelle de vos embrasements d'amour. Vous pouvez le dire, hein?
Ils sont épuisement de stock là-bas. J'avais recalé une fois.
Ah oui, vous avez la Châteauneuf, ils sont fous. J'ai 3 tomes.
Oui, je... Non, mais je suis allé sur Internet au foyer des Charités.
Non,
ils ne sont plus sur Internet.
Il faut y aller sur place.
D'accord. Oui.
C'est mon Dieu pour ceux qui abominent. Reste. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le scandale du monde délivré de l'esprit de Satan. Pitié, mon Dieu, pour que ton royaume arrive. Sauve-le, il en est encore temps. Le temps est proche, l'heure est arrivée. Notre Père, tu es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton règne vienne, la volonté soit faite sur la terre.
Pardonne-nous nos offenses.
Ils nous ont offensés. Ils ne nous laissent pas entrer.
Et pardonne-nous du mal.